La mission du FIP quitte le territoire ce soir. Durant 3 jours en Nouvelle-Calédonie, la délégation du Forum des îles du Pacifique a multiplié les entretiens. Un homme retrouvé mort à Yaoué hier matin, il aurait chuté lors d'une promenade dimanche. Son corps a été découvert dans une zone difficile d'accès. On en parle en début de ce journal. Emmanuel Macron accueilli avec faste au Maroc. Une visite d'État de 3 jours débute à Rabat. Des premiers contrats devraient être signés dès aujourd'hui. Les fonctionnaires dans le collimateur du projet de budget de la Sécurité sociale. Les arrêts maladie du public pourraient être alignés sur ceux du privé. 3 jours de carence au lieu d'un et 90% du salaire. Les débats se passent à l'Assemblée nationale. À l'étranger, dernière ligne droite pour Kamala Harris et Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Les deux candidats sont au coude à coude. Donald Trump était en meeting devant 20 000 personnes à New York. Un meeting marqué par quelques dérapages, vous l'entendrez. Le sport, qui sera le meilleur footballeur de la planète? La cérémonie du Ballon d'Or se tient ce matin à Paris. Le Real Madrid boycotte l'événement, convaincu que sa star Vinicius sera snobé. Pourtant, c'est bien le Brésilien qui est le favori. La météo, les nuages restent majoritaires. Des averses parfois fortes se développent sur la chaîne, l'Est et les Loyautés, mais restent rares sur la façade ouest. Quant aux températures maximales, elles perdent 1 à 2 degrés, de 26 à 29 degrés du sud vers le nord et localement 30 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Elle a une actualité sur le territoire.
Oui, depuis samedi, la Nouvelle-Calédonie accueille une mission d'information du Forum des îles du Pacifique. Une mission de haut niveau composée des premiers ministres des Tonga, des Cook et des Fidji, ainsi que du ministre des Affaires étrangères des îles Salomon. Ils viennent pour mieux comprendre la situation en Nouvelle-Calédonie après les violences insurrectionnelles de mai. Et l'objectif de leur mission est de recueillir des informations pour mieux comprendre cette situation. Et pour cela, ils ont donc des entretiens et des visites de terrain avec toutes les parties prenantes pertinentes pour la résolution de la crise en Nouvelle-Calédonie. Et ils sont également censés soutenir les efforts en cours de l'État et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour appeler à la paix et à la stabilité, à la désescalade des violences en cours et à la promotion du dialogue entre les parties. Et ils devront donc, à l'issue de cette mission, Léana Colombo, fournir un rapport contenant des recommandations claires aux dirigeants du Forum.
Dans cette perspective, ils ont déjà rencontré les personnels de santé. Ils se sont rendus à Ducos pour constater les dégâts sur l'outil économique. Ils ont été accueillis au Sénat coutumier et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et hier matin, ils ont débuté leurs entretiens plus politiques avec un rendez-vous avec le président du gouvernement, puis avec les membres de l'exécutif. À l'issue de cet entretien, Louis Mapou a rappelé que la mise en place de cette mission avait demandé un important travail de calage entre l'État, la Nouvelle-Calédonie et le Forum des îles du Pacifique.
La Nouvelle-Calédonie a besoin que la région comprend bien les enjeux que nous vivons, puisque la situation de la Nouvelle-Calédonie est très observée, mais surtout lorsque des événements se passent en Nouvelle-Calédonie, ça éclabousse pratiquement toute la région. Ça peut porter atteinte à la cohésion interne de l'ensemble de la région pacifique. Donc, c'est en ce sens que ces 2 premiers jours qu'ils passent avec nous sont très positifs, en tout cas. Voilà ce que je peux dire de cette mission, qui les enchante apparemment et qui correspond bien à ce qu'on souhaitait. Ils sont très ouverts, ils n'ont pas d'a priori.
Pas d'a priori, affirme Louis Mapou, qui indique que les membres du gouvernement ont expliqué à la mission du Forum que la Calédonie est à un tournant dans son évolution. Ils leur ont également présenté le PS2R et évoqué avec eux les prochaines discussions sur l'avenir et les prochaines visites de personnalités de l'État. La mission du Forum des îles du Pacifique s'est ensuite rendue à la CPS pour ses entretiens suivants. Et d'abord avec la présidente de la province sud, Sonia Baques. Elle a précisé ce qu'elle attendait d'une telle mission.
Nous, on n'était pas demandeurs. Hein. C'est une démarche qui a été initiée par l'État. On attend un rapport d'observation le plus juste possible. On sait qu'il y a forcément des partis pris, des a priori de la part de certains, dans un sens ou dans l'autre. On espère que le rapport final sera le plus juste et le plus neutre possible, de manière à aider au processus et pas à rajouter de l'huile sur le feu. Il y aura un rapport qui sera fait, autant que ce rapport corresponde le mieux à la réalité. Donc plus on peut apporter d'informations, et mieux c'est. Donc dès l'instant où ils sont présents, évidemment que c'est utile qu'on y réponde.
Et selon la présidente de la province sud, les membres de la mission veulent comprendre ce qui se passe. Elle les a notamment informés sur tout ce qui a été fait depuis 40 ans et notamment sur le rééquilibrage et sur la nécessité de travailler sur l'esprit critique parce que certaines populations ont cru des mensonges qui n'étaient pas exacts. C'est ensuite le président de la province des îles, Jacques Lallier, qui s'est entretenu avec les membres de la mission du forum et qui a répondu à leurs interrogations.
Ils avaient des questions spécifiques à nous répondre sur la possibilité d'unité des partenaires politiques, la possibilité de changer. Est-ce que le report des élections provinciales peut servir favorablement? Donc, j'ai souhaité qu'ils aient une possibilité d'intervenir pour parler de la géopolitique, de tout ce qui est intéressant pour nous ensemble avec eux en Océanie et voir avec des interventions diplomatiques auprès de l'État pour placer le débat à un niveau de partenariat entre l'État et nous pour pouvoir voir comment on met en place après une discussion sur les réformes et sur des perspectives et éventuellement sur une période transitoire assez intéressante pour relancer l'économie mais aussi former des cadres et comment occuper les postes à responsabilité.
Jacques Lallier leur a aussi parlé de ses projets d'aéroport international à Wanaham ou de création d'un port franc à Wé. Les responsables régionaux ont également rencontré les membres de NCECO et notamment la présidente du MEDEF, Mimsy Délé, qui voit une opportunité dans cette mission d'information.
Déjà l'opportunité de témoigner de ce qui s'est passé dans nos entreprises au mois de mai, de la gravité des exactions et des destructions qui ont été commises, et puis surtout de montrer que les conséquences dépassent très largement ce qui s'est passé, bien valoriser aussi le rôle de l'entreprise dans le financement de nos systèmes de protection et d'aide sociale, et de montrer qu'au final les conséquences ont peut-être été très très mal anticipées, parce qu'aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, et notamment les populations les plus fragiles, payent un prix extrêmement lourd suite à ces événements.
Une rencontre qui a aussi été l'occasion de parler coopération régionale.
Cette coopération, elle a déjà commencé puisque Fidji, notamment, a fourni à la Nouvelle-Calédonie très rapidement du riz, de la farine, des boissons gazeuses actuellement. Aujourd'hui, l'ouverture économique de la Nouvelle-Calédonie est un sujet qui est sur la table, pour des raisons évidentes de pouvoir d'achat et d'intégration régionale. Et nous devons comprendre comment, pour un bénéfice mutuel, nous pouvons nous organiser pour ouvrir davantage la Nouvelle-Calédonie à ses pays voisins. Certains approvisionnements passent déjà par la zone pacifique et nous en avions besoin. Demain, notre coopération, elle peut nous amener aussi et amener les entreprises calédoniennes à exporter aussi vers ces pays pour développer leur marché. Le marché calédonien vient de se restreindre considérablement et donc nous allons avoir besoin de nouveaux débouchés pour les produits calédoniens. Et dans ce cadre, évidemment, la coopération avec le Pacifique, elle est très stratégique.
La mission du Forum des îles du Pacifique a terminé cette matinée par un déjeuner avec la jeunesse de Nouvelle-Calédonie, sans plus de précision.
Et dans la journée également, les loyalistes ont rencontré la mission d'information du Forum des îles du Pacifique. Un entretien qui a, selon un communiqué, permis de partager un discours de vérité aux ambassadeurs qui composent cette mission, Léana.
Oui, les loyalistes ont évoqué les causes qui ont mené à la situation actuelle, en soulignant, je cite, le rôle central et mortifère qu'a joué la CCAT. Ils ont insisté sur les nombreuses attaques racistes et xénophobes qui ont été perpétrées par la CCAT et qui contribuent encore à fracturer la société calédonienne. Les loyalistes ont décrit la situation inacceptable que vivent encore certains Calédoniens, notamment au Mont d'Or. Ils ont rappelé leur attachement aux valeurs démocratiques et républicaines. Je cite « Nous avons défendu une vision ouverte et égalitaire de la Nouvelle-Calédonie, une vision où chacun est respecté et où aucune communauté n'est supérieure à une autre. Nous avons surtout rappelé que les Calédoniens se sont exprimés à de multiples reprises, de manière libre, souveraine et éclairée pour rester français. » Les loyalistes ont aussi tenu à rappeler que la Calédonie bénéficie d'une politique sociale très développée pour la région. Des avantages que les Calédoniens les plus modestes devront bientôt sacrifier à cause de l'insurrection pilotée par les indépendantistes radicaux. Les loyalistes ont indiqué à la mission qu'ils attendaient qu'elle traduise de manière impartiale les événements qui se sont déroulés après le 13 mai, tant pour les causes que pour les conséquences.
Et pour cette dernière journée sur le territoire, la mission poursuit ses entretiens ce matin à la CPS. Elle prendra son petit déjeuner avec les autorités religieuses avant d'échanger avec le monde de l'enseignement. Elle aura ensuite un entretien avec le comité Parole, Mémoire, Vérité, Réconciliation, puis un échange avec les représentants des femmes. Cet après-midi, les membres de la mission s'entretiendront avec le haut-commissaire Louis Lefranc et avec l'ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan. Ils se rendront enfin sur le terrain au lycée Petrois Titi pour observer des dommages causés lors de la crise avant donc de quitter le territoire.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, tout d'abord, 75% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent craindre un risque d'ingérence de la part de la mission du Forum des îles du Pacifique. Ils sont donc 25% à penser qu'elle vient s'informer objectivement de la situation en Nouvelle-Calédonie. Voici maintenant notre question du jour. Alors que la métropole vient de passer à l'heure d'hiver, pensez-vous que la Nouvelle-Calédonie doit elle aussi se poser la question du changement d'heure? Si vous pensez que la Calédonie doit se poser la question d'un changement d'heure, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 6h41, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Actualité marquée par un drame à Yaoué. Le corps d'un homme a été retrouvé hier matin.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Attention, ça y est, la nouvelle station mobile de Magenta ouvre ses portes. Carburant de qualité, boutique, service au top. Et ce n'est pas tout. À partir du mardi 15 octobre, participez à notre grand jeu Machine à soude et votre passage en caisse. Un plein, un achat, vous êtes éligible. À vous de tenter votre chance. À gagner, des bons d'achat en carburant de 10 000 francs et plein de surprises. Ne manquez pas l'ouverture de la station mobile de Magenta et repartez peut-être gagnant. Rendez-vous dès maintenant dans votre nouvelle station. Mobile, toujours à vos côtés.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Un homme de 30 ans a donc été retrouvé mort hier matin vers 9h30 à Yaoué. Sa disparition avait été signalée par ses proches après qu'il est parti se promener la veille dans un endroit qu'il fréquentait régulièrement. Son corps a finalement été retrouvé dans une zone difficile d'accès. Écoutez les précisions de Michel Baudry, 7e adjoint au maire du Mont-d'Or en charge de la sécurité des biens et des personnes.
Donc c'est un homme de 30 ans qui a été retrouvé sur les hauteurs de Yaoué. Pour accéder, c'était vraiment très compliqué. Là, ça rappelle un hélicoptère qui a pu le récupérer le corps et le descendre sur le terrain de rugby qu'on a au Pont des Français pour qu'il puisse ensuite être rapatrié sur l'hôpital. Pour le moment, ils disent une chute, parce que c'est une personne qui était partie apparemment seule se baigner, se promener. Donc on pense que c'est une chute, mais après, il y aura peut-être une enquête qui va être diligentée.
Et le décès de cet homme d'une trentaine d'années a été constaté sur place. Du côté des feux, quelques incendies ont occupé les pompiers de Nouméa hier matin. Ils sont intervenus après le pont de Nouville. Un hectare est parti en fumée sans faire de dégâts matériels. Et à Sainte-Marie, c'est à l'île aux Huérées que les soldats du feu ont déployé leurs forces. Il s'agit de leur troisième intervention sur site depuis la semaine dernière. En bref, une bonne nouvelle pour le portefeuille des Calédoniens. Le prix des carburants de nouveau en baisse. À partir du 1er novembre, l'essence passera à 157,2 francs le litre, soit une baisse de 8,60 francs par rapport à ce mois-ci. Il s'agit de la troisième baisse consécutive des prix de l'essence. Quant au litre de gazole, il sera quant à lui affiché dans les stations-service à 137,2 francs, soit 7,40 francs de moins. Et puis enfin, un rendez-vous sur notre antenne. Les élèves sont entrés dans la dernière ligne droite avant la fin de l'année scolaire. Une année 2024 très perturbée par les émeutes. Après plusieurs semaines sans cours, comment préparer cette fin d'année? Et notamment pour les niveaux sanctionnés par des examens. Eh bien, ce sera le sujet du magazine Citoyen ce midi sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Nous en parlerons avec le vice-recteur Didier Vindatiche, avec Isabelle Amiot, chef de l'inspection pédagogique au vice-rectorat, Julien Leray, chef de la division examens et concours au vice-rectorat, et Sylvain Once, le président de la Fédération calédonienne des parents d'élèves. Rendez-vous donc à midi pour ce magazine citoyen sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. En attendant, il est 6h passées de 45 minutes. Vous écoutez RRB, une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde. Et notamment, on commencera avec cette visite d'Emmanuel Macron à Rabat.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Afin de fêter sa réouverture, le Béticuré à Bourail vous invite à dîner dans un havre de paix et de verdure. Pendant le mois de novembre, les dîners seront offerts pour la première nuit aux clients hébergés. La chambre de deux personnes, dîner inclus, vous est ainsi proposée entre 13 970 francs et 16 930 francs. La suite pour quatre personnes avec jacuzzi privé, dîner inclus, entre 26 860 francs et 33 230 francs. Venez vous détendre et profiter d'un moment de convivialité en réservant en ligne sur le site www.beticuré.com.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal, on retrouve Nicolas Legrand.
Et Emmanuel Macron a donc entamé sa visite d'État de 3 jours au Maroc. Accueilli avec faste, ce séjour doit sceller la réconciliation entre les deux pays. Le président de la République est accompagné d'une délégation très conséquente et au programme de nombreux sujets de discussion. Jacques Serret pour Europe 1.
Oui, Emmanuel Macron reçu en grande pompe, accueilli sur le tarmac de l'aéroport de Rabat par le roi Mohamed VI, puis applaudi tout au long de la route reliant l'aéroport au Méchoir, le lieu de la cérémonie d'accueil officielle. Mais derrière les apparences, en effet, il s'agit d'aborder des dossiers importants, à commencer par celui des OQTF, des ressortissants marocains. Bruno Retailleau est dans la délégation du président et le ministre de l'Intérieur ne compte pas faire de la figuration. L'an dernier, le Maroc n'a délivré que 725 laissez-passer consulaire, alors que dans le même temps, la France a accordé près de 250 000 visas aux Marocains. Reste que ce sujet est particulièrement épineux entre Paris et Rabat, et qu'à ce stade, à l'heure des retrouvailles, l'entourage du chef de l'État ne semble pas décidé à en faire une priorité.
Et les deux pays devraient également signer divers accords économiques. Rabat espère en effet que la relance des relations avec la France va entraîner des investissements et des contrats.
Radio Rythme Bleu, il est 6h46.
En métropole, la CRS 82 déployée dans le quartier de Morpa à Rennes. 12 camions dépêchés en urgence. Un dispositif mis en place en raison d'une poussée de violence dans la ville bretonne. Je rappelle qu'un enfant de 5 ans qui se trouvait dans la voiture de son père a été très grièvement blessé à la tête, à l'arme de guerre. Et quelques heures plus tard, dans un square, un homme a été enlevé, dénudé et séquestré. Le préfet Amaury de Saint-Quentin, originaire de Nouméa, a pris son poste hier soir pour nous sur un territoire théâtre d'une violence inédite.
Il est anormal que des victimes innocentes, comme peut l'être un enfant de 5 ans, subissent les conséquences de ce type de phénomène. Donc nous allons combattre tout cela avec détermination. Et je serai aux côtés des élus qui ont besoin que l'État les accompagne face à des situations de ce type.
Nathalie Appéré, le maire de Rennes, a demandé des moyens supplémentaires pour maintenir l'ordre.
Quand cela vient toucher un enfant de 5 ans, bien évidemment qu'on franchit un cap dans l'horreur. Je me réjouis de l'arrivée de la CRS 82, mais il faut aussi des moyens au long cours.
Des moyens au long cours, comme l'embauche par exemple de la centaine de policiers manquants dans la ville. Le budget 2025 va désormais être examiné par le Sénat. Les députés, eux, planchent sur le PLFSS, le budget de la sécurité sociale. L'un des objectifs est de sévir contre l'absentéisme dans la fonction publique pour retrouver 5 milliards d'euros d'économies. Et à ce titre, l'exécutif a déposé 2 amendements pour aligner les règles des arrêts maladie des agents de la fonction publique sur ceux des salariés du privé. 3 jours de carence au lieu d'un seul et une indemnisation réduite à 90% du traitement, alors qu'actuellement, le salaire des fonctionnaires en arrêt maladie est intégralement versé, et cela pendant 3 mois. C'est une mesure qui ne fait pas l'unanimité, mais qui pourrait séduire une majorité, Brieux-Baucher.
Oui, ces mesures pourraient trouver un soutien au centre et à droite de l'échiquier politique. Invité des Quatre Vérités ce matin, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a néanmoins posé ses conditions pour que le RN soutienne cette mesure.
Je suis favorable à cet ajustement entre les fonctionnaires et les salariés du privé à une seule condition, c'est que ces potentiels 900 millions d'euros qui seraient économisés par la batterie de mesures puissent être utilisés pour financer des mesures en faveur du pouvoir d'achat.
Plus prévisible la réaction à gauche, l'annonce a du mal à passer. Le député LFI Manuel Bompard dénonce, lui, une mesure injuste pour les fonctionnaires.
Je trouve que c'est une manière scandaleuse d'essayer de faire des économies en pointant du doigt les fonctionnaires qui, si parfois ils sont absents, ils sont malades, c'est parce qu'ils sont malades, ils sont pas absents parce que ça leur fait plaisir d'être absents.
Et quoi qu'il en soit, les voix des députés RN ajoutées à celles du socle commun pourraient suffire pour que les deux amendements soient adoptés.
Et plusieurs syndicats ont appelé le Parlement et le gouvernement à remanier profondément ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, avec notamment dans leur viseur la hausse du ticket modérateur. Doit-on s'inquiéter pour le Premier ministre? Michel Barnier a été opéré ce week-end, on l'a appris ce matin, et Matignon se veut désormais rassurant. Alexis de la Fontaine.
Oui, tout s'est très bien passé, assure Olivier Hersant, le médecin du Premier ministre. Michel Barnier, 73 ans, a été opéré ce week-end d'une lésion cervicale localisée au niveau de la gorge. Cette opération, jugée bénigne, était prévue depuis plusieurs semaines. Et les résultats d'analyse seront connus prochainement, fait savoir Matignon. En attendant, le Premier ministre est en excellente forme selon son entourage. Il s'est déjà remis au travail ce matin. Il a notamment vu Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, et Nathalie Delattre, la ministre des Relations avec le Parlement. La prochaine apparition publique de Michel Barnier devrait avoir lieu ce jeudi à l'occasion du Conseil des ministres.
Alexis de la Fontaine pour Europe 1. Direction les États-Unis maintenant. Le match Kamala Harris-Donald Trump est toujours aussi serré. Il est très difficile de désigner un favori à 8 jours maintenant de l'élection présidentielle américaine. Le moindre faux pas peut être décisif. Et la nuit dernière, il se pourrait que le candidat républicain en ait justement fait un. Des propos tenus lors d'un meeting de Donald Trump sur la scène du Madison Square à New York pourraient faire perdre des voix précieuses à l'ancien président. Aviva Fried pour Europe 1.
Oui, finesse est rarement le mot associé à un meeting de Donald Trump, mais à New York, cela a pris des proportions rarement atteintes. Avant même que l'ancien président ne monte sur scène pour dérouler ses thèmes habituels, les nombreux intervenants se sont livrés à un festival d'insultes racistes et misogynes, l'un qualifiant Kamala Harris d'antéchrist, l'autre plus sobrement de prostituée, la palme revenant à un humoriste, Tony Hinchcliffe.
Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a littéralement une île flottante d'ordures au milieu de l'océan. Ouais, je crois qu'elle s'appelle Porto Rico.
Indignation immédiate, des superstars portoricaines comme Bad Bunny, Ricky Martin ou Jennifer Lopez ont condamné ces propos et appelé à voter Kamala Harris. Des élus républicains ont pris publiquement leur distance. Même l'équipe de Donald Trump flaire le danger. L'un de ses conseillers a affirmé que la blague était blessante, car ce dérapage pourrait coûter cher à l'ancien président. La communauté portoricaine est importante, notamment dans les États clés. Des électeurs qui pourraient faire toute la différence.
Et l'actuel président américain Joe Biden s'est rendu au bureau de vote cette nuit pour nous. Il a voté de manière anticipée à Newcastle, une ville du Delaware, non loin de son lieu de résidence. Alors que l'essentiel du vote se jouera dans une semaine, le mardi 5 novembre. Alors sur quoi va se jouer ce scrutin? Est-ce que ce type de meeting peut vraiment peser dans la campagne? Et quels sont les enjeux de ce vote? Eh bien, nous en parlerons ce matin en détail sur Radio Rythme Bleu avec notre invité. À 7h30, nous recevons en effet Gaël Lagadec, maître de conférences en sciences économiques et spécialiste des États-Unis. Rendez-vous donc tout à l'heure à 7h30. En attendant, il est 6h passé de 52 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. Et l'actualité, elle est hors des terrains aujourd'hui puisqu'il s'agit de la cérémonie du Ballon d'Or 2024.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Voilà les beaux jours! Découvrez notre sélection de mobilier de jardin 2024. Salon de jardin, coin repas, espace détente, piscine et barbecue. Tout pour vos extérieurs. En magasin ou sur jardiland.nc. Jardiland Nouméa, au quotidien pour tous les Calédoniens.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
RRB, première radio d'information.
Excellent début de journée, la suite de votre journal avec le sport. On retrouve Nicolas Legrand.
Et c'est aujourd'hui la fameuse cérémonie du Ballon d'Or 2024 qui récompense, vous le savez, les meilleurs footballeurs de la planète. Et le favori cette année, c'est Vinicius Junior, l'attaquant brésilien auteur d'une magnifique saison sous les couleurs du Real Madrid. 26 buts et 11 passes décisives, a de grandes chances de remporter le trophée qui, sauf surprise, passera donc une fois de plus sous le nez de Kylian Mbappé, Cyril de la Morinerie.
Oui, Kylian Mbappé, troisième du palmarès l'an dernier derrière Lionel Messi, le vainqueur et Erling Haaland pourraient assister ce soir au sacre de son coéquipier Vinicius. La star rêve évidemment de remporter ce trophée de 15 kilos, estimé à 13 000 euros, dont la fabrication nécessite une centaine d'heures de travail. Mais le Français y pense peut-être un peu trop, estime le journaliste d'Europe 1, Jacques Vendroux.
J'ai l'impression que c'est obsessionnel de la part de Kylian Mbappé. Je pense qu'il l'a annoncé trop tôt, qu'il voulait avoir le ballon d'or. Honnêtement, il l'a jamais mérité à 300%. Mais en revanche, il a eu tort de dire « je vise le ballon d'or » et je crois que ça agace les votants.
Pour séduire le jury de 100 journalistes, Kylian Mbappé, demi-finaliste de l'Euro avec les Bleus, devra faire encore mieux, insiste le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse.
Si Kylian retrouve le leadership avec l'équipe de France, oui, il pourra se repositionner comme candidat au Ballon d'Or.
Kylian Mbappé, qui joue au Real, a choisi le bon club pour remporter ce fameux trophée. Le dernier Français vainqueur du Ballon d'Or n'est autre que l'ancienne légende du club madrilène, Karim Benzema.
À Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 et justement le Real Madrid qui boude l'événement, complètement boycotté, pas de déplacement à Paris pour le club madrilène, convaincu que sa star Vinicius ne sera pas désigné ballon d'or. On a déjà les premiers résultats de la 29e place à la 11e place, un seul français y figure, il s'agit de William Saliba, le français de 23 ans qui évolue au club d'Arsenal. Et puis enfin du tennis, puisqu'on joue le premier tour du Rolex Paris Masters à partir d'aujourd'hui, avec des Français qui étaient en compétition, et notamment Arthur Rinderknecht qui a battu Thomas Machac, qui a abandonné dans le deuxième set. Le Français avait perdu le premier set, mais il a profité d'une blessure du Tchèque à la cheville. Hugo Humbert, lui, a battu l'Américain Brandon Nakashima en 3-7. En revanche, Quentin Alice a été sorti par l'Argentin Francisco Cerundolo en 2-7. 7-6, 6-3. Et puis, on jouera et on suivra en particulier aujourd'hui également la prestation d'Adrian Manarino qui fera face donc à l'Américain Paul. Ce sera à 7h45, heure de Nouméa.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et c'est un temps assez gris aujourd'hui, Thierry.
Oui, ce matin, le ciel sera souvent gris, donc est couvert par des nuages d'altitude qui donneront par endroits de faibles pluies et intermittentes. Quelques éclaircies résisteront encore sur le sud-ouest. Le vent pour ce matin orienté est à sud-est soufflera autour 10 et 15 nœuds. Sur l'ouest, il sera plutôt calme en début de matinée, puis ensuite place aux brises de mer qui s'élèveront, elles, autour des 10 nœuds. Cet après-midi, les nuages resteront majoritaires sur l'ensemble du territoire. Des averses parfois fortes se développeront sur la chaîne l'est et les Loyautés, mais resteront rare sur la façade ouest. Le vent au sud-est pour cet après-midi, autour des 15 à 20 nœuds sur le nord-ouest et la pointe nord, il se maintiendra entre 10 et 15 nœuds ailleurs. Les températures maximales, elles perdent 1 ou 2 degrés, 26 à 29 degrés du sud au nord et localement 30 degrés. Et ce sera sur l'ouest rapidement pour la nuit prochaine. Sur l'est et les Loyautés, des averses résiduelles se produiront encore dans un ciel nuageux en soirée. Puis les éclaircies reviendront.
Merci beaucoup Thierry pour ce point complet sur la météo. On connaissait Brice de Nice, on connaît maintenant Brice de Mer. Merci à tous d'avoir suivi ce journal.